Jules Verne, L'île à Ellis, deuxième partie, chapitre 14. Dénouement. Au lever de l'aube, voici ce qu'aurait aperçu un observateur s'il eût dominé ces parages de quelques centaines de pieds. Trois fragments de Standard Island, mesurant de 2 à 3 hectares chacun, flottent sur ces parages. Une douzaine de moindre grandeur surnagent à la distance d'une dizaine d'encablures les uns des autres. La décroissance du cyclone a commencé aux premières lueurs du jour. Avec la rapidité spéciale à ses grands troubles atmosphériques, son centre s'est déplacé d'une trentaine de milles vers l'est. Cependant la mer, si effroyablement secouée, est toujours monstrueuse. Et ses épaves, grandes ou petites, roulent et tanguent comme des navires sur un océan en fureur. La partie du Standard Island qui a le plus souffert est celle qui servait de base à Milliard City. Elle a totalement sombré sous le poids de ses édifices. En vain chercherait-on quelques vestiges des monuments, des hôtels qui bordaient les principales avenues des deux sections. Jamais la séparation des bâbordais et des tribordais n'a été plus complète, et il ne la rêvait pas telle assurément. Le nombre des victimes est-il considérable? Il y a lieu de le craindre, bien que la population se fût réfugiée à temps au milieu de la campagne, où le sol offrait plus de résistance au démembrement. Eh bien, sont-ils satisfaits, ces Coverley, ces Tangardons, des résultats dus à leur coupable rivalité? Ce n'est pas l'un d'eux qui gouvernera à l'exclusion de l'autre, englouti Milliard City, et avec elle l'énorme prix dont ils l'ont payé. Mais que l'on ne s'apitoie pas sur leur sort, il leur reste encore assez de millions dans les coffres des banques américaines et européennes pour que le pain quotidien soit assuré à leurs vieux jours. Le fragment de la plus grande dimension comprend cette portion de la campagne qui s'étendait entre l'observatoire et la batterie de l'éperon. Sa superficie est d'environ 3 hectares, sur lesquels les naufragés, ne peut-on leur donner ce nom, sont entassés au nombre de 3000. Le deuxième morceau, de dimension un peu moindre, a conservé certaines bâtisses qui étaient voisines de Babord Harbor, le port avec plusieurs magasins d'approvisionnement et l'une des citernes d'eau douce. Quant à la fabrique d'énergie électrique, aux bâtiments renfermant la machinerie et la chaufferie, ils ont disparu dans l'explosion des chaudières. C'est ce deuxième fragment qui sert de refuge à 2000 habitants. Peut-être pourront-ils établir une communication avec la première épave, si toutes les embarcations de Babord Harbor n'ont pas péri. En ce qui concerne Tribord Harbor, on n'a pas oublié que cette partie de Standard Island s'est violemment détachée vers 3 heures après minuit. Elle a sans doute sombré, car si loin que les regards puissent atteindre, on n'en peut rien apercevoir. Avec les 2 premiers fragments, en surnage un 3e, d'une superficie de 4 à 5 hectares, comprenant cette portion de la campagne qui confinait à la batterie de la poupe et sur laquelle se trouvent environ 4000 naufragés. Enfin, une douzaine de morceaux, mesurant chacun quelques centaines de mètres carrés, donnent asile le reste de la population sauvée du désastre. Voilà tout ce qui reste de ce qui fut le joyau du Pacifique. Il convient donc d'évaluer à plusieurs centaines les victimes de cette catastrophe. Et que le ciel soit remercié de ce que Standard Island n'ait pas été englouti en entier sous les eaux du Pacifique. Mais si elles sont éloignées de toute terre, comment ces fractions pourront-elles atteindre quelques littorales du Pacifique? Ces naufragés ne sont-ils pas destinés à périr par famine? Et survivra-t-il un seul témoin de ce sinistre, sans précédent dans la nécrologie maritime? Non, il ne faut pas désespérer. Ces morceaux en dérive portent des hommes énergiques, et tout ce qu'il est possible de faire, pour le salut commun, ils le feront. C'est sur la partie voisine de la batterie de l'éperon que sont réunis le commodore Ethel Simcoe, le roi et la reine de Malécarly, le personnel de l'observatoire, le colonel Stewart, quelques-uns de ses officiers, un certain nombre des notables de Milliard City, les membres du clergé, enfin une partie importante de la population. Là aussi se trouvent les familles Coverley et Tangardon, accablées par l'effroyable responsabilité qui pèse sur leur chef. Et ne sont-elles déjà frappées dans leur plus chère affection, puisque Walter et Miss Day ont disparu? Est-ce un des autres fragments qui les a recueillis? Peut-on espérer de jamais les revoir? Le quatuor concertant, de même que ses précieux instruments, est au complet. Pour employer une formule connue, la mort seule aurait pu les séparer. Frascolin envisage la situation avec sang-froid et n'a point perdu tout espoir. Ivernès, qui a l'habitude de considérer les choses par leur côté extraordinaire, s'est écrié devant ce désastre. Il serait difficile d'imaginer une fin plus grandiose. Quant à Sébastien Zorn, il est hors de lui. D'avoir été bon prophète en prédisant les malheurs de Standard Island, comme Jérémie les malheurs de Sion, cela ne saurait le consoler. Il a faim, il a froid, il s'est enrhumé, il est pris de violentes quintes qui se succèdent sans relâche. Et cet incorrigible Pinchina de lui dire « Tu as tort, mon vieux Zorn !» et de quintes de suite s'est défendu, en harmonie. Le violoncelliste étranglerait son Altesse s'il en avait la force, mais il ne l'a pas. Et Callistus Munbar ? Eh bien, le surintendant est tout simplement sublime. Oui, sublime. Il ne veut pas désespérer ni du salut des naufragés, ni du salut de Standard Island. On se rapatriera, on réparera l'île à hélice, les morceaux en sont bons, et il ne sera pas dit que les éléments auront eu raison de ce chef-d'œuvre d'architecture navale. Ce qui est certain, c'est que le danger n'est plus imminent. Tout ce qui devait sombrer pendant le cyclone a sombré avec Miniar City, ses monuments, ses hôtels, ses habitations, les fabriques, les batteries, toute cette superstructure d'un poids considérable. À l'heure qu'il est, les débris sont dans de bonnes conditions. Leur ligne de flottaison s'est sensiblement relevée et les lames ne les balayent plus à leur surface. Il y a donc un répit sérieux, une amélioration tangible. Et comme la menace d'un engloutissement immédiat est écartée, l'état symptomatique des naufragés est meilleur. Un peu de calme renaît dans les esprits. Seules les femmes et les enfants, incapables de raisonner, ne peuvent maîtriser leur épouvante. Et qu'est-il arrivé d'Athanase Doremus ? Dès le début de la dislocation, le professeur de danse, de grâce et de maintien s'est vu emporté avec sa vieille servante sur une des épaves. Mais un courant l'a ramené vers le fragment où se trouvaient ses compatriotes du Quatuor. Cependant, le commodore Simcoe, comme un capitaine sur un navire désemparé, aidé de son dévoué personnel, s'est mis à la besogne. En premier lieu, sera-t-il possible de réunir ces morceaux, qui flottent isolément ? Si c'est impossible, pourra-t-on établir une communication entre eux ? Cette dernière question ne tarde pas à être résolue affirmativement, car plusieurs embarcations sont intactes à bâbord harbor. En les envoyant d'un débris à l'autre, le commodore Simcoe saura quelles sont les ressources dont on dispose, ce qui reste d'eau douce, ce qui reste de vivres. Mais est-on en mesure de relever la position de cette flottille d'épaves en longitude et en latitude ? Non, faute d'instruments pour prendre hauteur, le point ne saurait être établi, et dès lors, on ne saurait déterminer si la dite flottille est à proximité d'un continent ou d'une île. Vers 9h du matin, le commodore Simcoe s'embarque avec deux de ses officiers dans une chaloupe que vient d'envoyer bâbord harbor. Cette embarcation lui permet de visiter les divers fragments, et voici les constatations qui ont été obtenues au cours de cette enquête. Les appareils distillatoires de bâbord harbor sont détruits, mais la citerne contient encore pour une quinzaine de jours d'eau potable, si l'on réduit la consommation au strict nécessaire. Quant aux réserves des magasins du port, elles peuvent assurer l'alimentation des naufragés durant un laps de temps à peu près égal. Il est donc de toute nécessité qu'en 2 semaines au plus, les naufragés aient atterri en quelques points du Pacifique. Ces renseignements sont rassurants dans une certaine mesure. Toutefois, le commodore Simcoe a dû reconnaître que cette nuit terrible a fait plusieurs centaines de victimes. Quant aux familles Tangardon et Coverley, leur douleur est inexprimable. Ni Walter ni Miss Dye n'ont été retrouvés sur les débris visités par l'embarcation. Au moment de la catastrophe, le jeune homme, portant sa fiancée évanouie, s'était dirigé vers Tribord Harbor, et de cette partie de Standard Island, il n'est rien resté à la surface du Pacifique. Dans l'après-midi, le vent ayant molli d'heure en heure, la mer est tombée, et les fragments ressentent à peine les ondulations de la houle. Grâce au va-et-vient des embarcations de bâbord harbor, le commodore Simcoe s'occupe de pourvoir à l'alimentation des naufragés en ne leur attribuant que ce qui est nécessaire pour ne pas mourir de faim. D'ailleurs, les communications deviennent plus faciles et plus rapides. Les divers morceaux, obéissant aux lois de l'attraction, comme des débris de liège à la surface d'une cuvette remplie d'eau, tendent à se rapprocher les uns des autres. Et comment cela ne paraîtrait-il pas de bon augure au confiant Callistus Munbar, qui entrevoit déjà la reconstitution de son joyeux du Pacifique ? La nuit s'écoule dans une profonde obscurité. Il est loin, le temps où les avenues de Miniar City, les rues de ses quartiers commerçants, les pelouses du parc, les champs et les prairies, resplendissaient de feux électriques, où les lunes d'aluminium versaient à profusion une éblouissante lumière à la surface de Standard Island. Au milieu de ces ténèbres, il s'est produit quelques collisions entre plusieurs fragments. Ces chocs ne pouvaient être évités, mais par bonne chance, ils n'ont pas été assez violents pour causer de sérieux dommages. Au jour levant, on constate que les débris se sont très rapprochés et flottent de concert sans se heurter sur cette mer tranquille. En quelques coups d'aviron, on passe de l'un à l'autre. Le Commodore Simcoe a toute facilité pour réglementer la consommation des vivres et de l'eau douce. C'est la question capitale, les naufragés le comprennent et sont résignés. Les embarcations transportent plusieurs familles. Elles vont à la recherche de ceux des leurs qu'elles n'ont pas encore revus. Quelle joie chez celles qui se retrouvent, sans souci des dangers qui les menacent. Quelle douleur pour les autres, qui ont vainement fait appel aux absents. C'est évidemment une circonstance des plus heureuses que la mer soit redevenue calme. Peut-être est-il regrettable toutefois que le vent n'ait pas continué à souffler du sud-est. Il eût aidé le courant, qui dans cette partie du Pacifique porte vers les terres australiennes. Par l'ordre du commodore Simcoe, les vigies sont postées de manière à observer l'horizon sur tout son périmètre. Si quelque navire apparaît, on lui fera des signaux. Mais il n'en passe que rarement en ces parages lointains et à cette époque de l'année où se déchaînent les tempêtes équinoxiales. Elle est donc bien faible, cette chance d'apercevoir quelques fumées se déroulant au-dessus de la ligne de ciel et d'eau, quelques voilures se découpant à l'horizon. Et pourtant, vers 2 heures de l'après-midi, le commodore Simcoe reçoit la communication suivante de l'une des vigies. Dans la direction du nord-est, un point se déplace sensiblement, et quoi qu'on ne puisse en distinguer la coque, il est certain qu'un bâtiment passe au large de Standard Island. Cette nouvelle provoque une extraordinaire émotion. Le roi de Malécarly, le commodore Simcoe, les officiers, les ingénieurs, tous se portent du côté où ce bâtiment vient d'être signalé. Ordre est donné d'attirer son attention, soit en hissant des pavillons au bout des spars, soit au moyen de détonations simultanées des armes à feu dont on dispose. Si la nuit vient avant que ces signaux aient été aperçus, un foyer sera établi sur le fragment de tête, et pendant la nuit, comme il sera visible à une grande distance, il est impossible qu'il ne soit pas aperçu. Il n'a pas été nécessaire d'attendre jusqu'au soir. La masse en question se rapproche visiblement. Une grosse fumée se déroule au-dessus, et il n'est pas douteux qu'elle cherche à rallier les restes de Standard Island. Aussi les lunettes ne la perdent-elles pas de vue, quoique sa coque soit peu élevée au-dessus de la mer, et qu'elle ne possède ni mâture ni voilure. « Mes amis, s'écrie bientôt le commodore Simcoe, je ne me trompe pas, c'est un morceau de notre île, et ce ne peut être que Tribord Arbor, qui a été entraîné au large par les courants. Sans doute Monsieur Semois a-t-il pu faire des réparations à sa machine, et il se dirige vers nous. » Des démonstrations, qui touchent à la folie, accueillent cette nouvelle. Il semble que le salut de tous soit maintenant assuré. C'est comme une partie vitale de Standard Island qui lui revient avec ce morceau de Tribord Arbor. Les choses en effet se sont passées telles que l'a compris le commodore Simcoe. Après le déchirement, Tribord Arbor, pris par un contre-courant, a été repoussé dans le nord-est. Le jour venu, Monsieur Semois, l'officier de port, après avoir fait quelques réparations à la machine, légèrement endommagée, est revenu vers le théâtre du naufrage, ramenant encore plusieurs centaines de survivants avec lui. 3 heures après, Tribord Arbor n'est plus qu'à une encablure de la flottille. Et quel transport de joie, quel cri enthousiaste accueille son arrivée. Walter Tangardon et Miss Di Coverley, qui avaient pu y trouver refuge avant la catastrophe, sont là, l'un près de l'autre. Cependant, depuis l'arrivée de Tribord Arbor, avec ses réserves de vivres et d'eau, on entrevoit quelques chances de salut. Ces magasins possèdent une quantité suffisante de combustible pour mouvoir ces machines, entretenir ces dynamos, actionner ces hélices durant quelques jours. Cette force de 5 millions de chevaux dont il dispose doit lui permettre de gagner la terre la plus voisine. Cette terre est la Nouvelle-Zélande, d'après les observations qui ont été faites par l'officier de port. Mais la difficulté est que ces milliers de personnes puissent prendre passage sur Tribord Arbor, sa superficie n'étant que de 6 à 700 000 mètres carrés. En sera-t-on réduit à l'envoyer chercher des secours à 50 000 de là? Non, cette navigation exigerait un temps trop considérable, et les heures sans compter. Il n'y a pas un jour à perdre, en effet, si l'on veut préserver les naufragés des horreurs de la famine. « Nous avons mieux à faire, » dit le roi de Malécarly. « Les fragments de Tribord Arbor, de la batterie de l'éperon et de la batterie de la poupe, peuvent porter en totalité les survivants de Standard Island. Relions ces trois fragments par de fortes chaînes et mettons-les en file, comme des chalands à la suite d'un remorqueur. Puis que Tribord Arbor prenne la tête, et avec ses 5 millions de chevaux, il nous conduira à la Nouvelle-Zélande. » L'avis est excellent. Il est pratique. Il a toutes les chances de réussir, du moment que Tribord Arbor dispose d'une si puissante force locomotrice. La confiance revient au cœur de la population, comme si elle était déjà en vue d'un port. Le reste de la journée est employé aux travaux que nécessite l'amarrage au moyen des chaînes que fournissent les magasins de Tribord Arbor. Le commodore Simcoe estime que, dans ces conditions, ce chapelet flottant pourra faire de 8 à 10 milles par 24 heures. Donc, en 5 jours, aidé par les courants, il aura franchi les 50 milles qui le séparent de la Nouvelle-Zélande. Or, on a l'assurance que les approvisionnements peuvent durer jusqu'à cette date. Par prudence, cependant, en prévision de retard, le rationnement sera maintenu dans toute sa rigueur. Les préparatifs terminés, Tribord Arbor prend la tête du chapelet vers 7 heures du soir. Sous la propulsion de ses hélices, les deux autres fragments, mis à sa remorque, se déplacent lentement sur cette mer au calme plat. Le lendemain, au lever du jour, les vigies ont perdu de vue les dernières épaves de Standard Island. Aucun incident à relater pendant les 4, 5, 6, 7 et 8 avril. Le temps est favorable, la houle est à peine sensible, et la navigation s'effectue dans d'excellentes conditions. Vers 8 heures du matin le 9 avril, la terre est signalée par bâbord devant. Une terre haute, que l'on a pu apercevoir d'une assez grande distance. Le point ayant été fait avec les instruments conservés à Tribord Arbor, il n'y a aucun doute sur l'identité de cette terre. C'est la pointe d'Ikana Maui, la grande île septentrionale de la Nouvelle-Zélande. Une journée et une nuit se passent encore, et le lendemain, 10 avril dans la matinée, Tribord Arbor vient s'échouer à une encablure du littoral de la baie Ravaraki. Quelle satisfaction, quelle sécurité toute cette population éprouve à sentir sous son pied la vraie terre, et non plus ce sol factice de Standard Island. Et cependant, combien de temps n'eût pas duré ce solide appareil maritime si les passions humaines, plus fortes que les vents et la mer, n'eussent travaillé à sa destruction? Les naufragés sont très hospitalièrement reçus par les Néo-Zélandais, qui s'empressent de les ravitailler de tous ceux dont ils ont besoin. Dès l'arrivée à Auckland, la capitale d'Ikana Maui, le mariage de Walter Tangerdon et de Miss Di Coverley est enfin célébré avec toute la pompe que comportent les circonstances. Ajoutons que le quatuor concertant se fait une dernière fois entendre à cette cérémonie à laquelle tous les milliardais ont voulu assister. C'est là une union qui sera heureuse, et que ne s'est-elle accomplie plus tôt dans l'intérêt commun? Sans doute les jeunes époux ne possèdent plus qu'un pauvre million de rente chacun. Mais, comme le formule Pinchina, tout porte à croire qu'ils trouveront encore le bonheur dans cette médiocre situation de fortune. Quant aux Tangerdon, aux Coverley et aux autres notables, leur projet est de retourner en Amérique, où ils n'auront pas à se disputer le gouvernement d'une autre île à hélice. Même détermination en ce qui concerne le commodore Ethel Simcoe, le colonel Stewart et leurs officiers, le personnel de l'observatoire, et même le surintendant Callistus Munbar, qui ne renonce point, tant s'en faut, à son idée de fabriquer une nouvelle île artificielle. Le roi et la reine de Malécarly ne cachent point qu'ils regrettent cette Standard Island, dans laquelle ils espéraient terminer paisiblement leur existence. Espérons que ces ex-souverains trouveront un coin de terre où leurs derniers jours s'achèveront à l'abri des dissensions politiques. Et le quatuor concertant? Eh bien, le quatuor concertant, quoi qu'ait pu dire Sébastien Zorn, n'a point fait une mauvaise affaire, et s'il en voulait à Callistus Munbar de l'avoir embarqué, un peu malgré lui, ce serait pure ingratitude. En effet, du 25 mai de l'année précédente au 10 avril de la précédente année, il s'est écoulé un peu plus de 11 mois, pendant lesquels nos artistes ont vécu de la plantureuse vie que l'on sait. Ils ont touché les 4 trimestres de leurs appointements, dont 3 sont déposés dans les banques de San Francisco et de New York, lesquels les verseront contre signature quand il leur conviendra. Après la cérémonie du mariage à Auckland, Sébastien Zorn, Hivernes, Frascolin et Pinchina sont allés prendre congé de leurs amis, sans oublier Athanase de Rémus. Puis ils ont pu s'embarquer sur un steamer à destination de San Diego. Arrivés le 3 mai dans cette capitale de la Basse-Californie, leur premier soin est de s'excuser, par la voix des journaux, d'avoir manqué de parole 11 mois auparavant, et d'exprimer leur vif regret de s'être fait attendre. « Messieurs, nous vous aurions attendu 20 ans encore. » Telle est la réponse qu'ils reçoivent de l'aimable directeur des soirées musicales de San Diego. On ne saurait être ni plus accommodant ni plus gracieux. Aussi la seule manière de reconnaître tant de courtoisie est-elle de donner ce concert, annoncé depuis si longtemps. Et devant un public aussi nombreux qu'enthousiaste, le quatuor, en fa majeur de l'opus 9 de Mozart, vaut-il assez virtuose, échappé au naufrage de Standard Island, l'un des plus grands succès de leur carrière d'artiste. Voilà comment se termine l'histoire de cette 9e merveille du monde, de cet incomparable joyau du Pacifique. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Mais tout ce qui est mal, finit mal. Et n'est-ce pas le cas de Standard Island? Fini, non. Et elle sera reconstruite un jour ou l'autre, à ce que prétend Callistus Münbar. Et pourtant, on ne saurait trop le répéter, créer une île artificielle, une île qui se déplace à la surface des mers, n'est-ce pas dépasser des limites assignées au génie humain? Et n'est-il pas défendu à l'homme, qui ne dispose ni des vents ni des flots, d'usurper si témérairement sur les créateurs?